Laudetur Jesus Christus.
Le prince héritier d'Arabie Saoudite mis en cause par les États-Unis, Ben Salman, aurait validé l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, selon un rapport confidentiel dévoilé hier par la Maison-Blanche. Washington accuse, mais ne sanctionne pas tous les détails dans un instant. Au Royaume-Uni, la Cour suprême a tranché. Une jeune femme partie rejoindre l'État islamique en Syrie et désirant rentrer à Londres ne pourra pas le faire. Sa venue représente un risque sécuritaire trop grand. La stupeur aux Nations Unies hier, l'ambassadeur de Birmanie auprès de l'organisation a pris fait et cause pour les manifestants contre la junte au pouvoir, adjurant la communauté internationale de prendre des actions fortes contre les militaires. Sur place, les manifestations se poursuivent. Et puis une proposition en ce carême, celui du jeûne numérique. Notre dépendance à Internet et aux écrans peut affecter notre rapport à Dieu et donc aux autres. Pourquoi alors ne pas déconnecter pour retrouver un peu de sérénité et se recentrer? Nous en parlons avec un père Carme en fin de journal.
Radio Vatican, le journal, Manuela Affigi.
Bonjour à tous. Un rapport aux conclusions fausses et préjudiciables selon l'Arabie Saoudite. Les États-Unis ont accusé hier publiquement le prince héritier saoudien d'avoir autorisé l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. C'était en 2018. Exilé outre-Atlantique, il avait été tué au consulat saoudien d'Istanbul dans des circonstances particulièrement sordides. Donald Trump avait à l'époque refusé de publier ce document. Mais si son successeur, Joe Biden, a donc décidé de faire la lumière sur cette affaire en déclassifiant le fameux mémo, les sanctions annoncées ne sont pas vraiment à la hauteur. À New York, Loïc Loury.
Des restrictions de visa contre 76 Saoudiens et des sanctions financières contre un influent général ainsi qu'une unité d'élite, mais rien pour le principal accusé de cette affaire, Mohamed Ben Salman lui-même. D'après ce rapport de 4 pages, le prince héritier saoudien pourtant aurait approuvé l'assassinat de Jamal Khashoggi. Le journaliste très critique du pouvoir était une menace selon le prince qui soutenait le recours à des mesures violentes si nécessaire pour le faire taire. Alors pourquoi ne pas avoir ordonné de sanctions? Réponse dans Tony Blinken, le secrétaire d'État. Le sens de notre action, c'est vraiment de ne pas avoir de rupture dans les relations, mais de les recalibrer. Ça va plus loin qu'une seule personne. Ce rapport parle pour lui-même, le fait que nous ayons fourni la transparence nécessaire. Un peu léger pour certains, d'autant plus que Joe Biden, encore candidat, estimait que le Royaume du Golfe devait être traité comme un État paria, que les responsables de cette affaire devaient en payer les conséquences. Le nouveau président américain, toutefois, ne peut pas s'aliéner un allié majeur comme l'Arabie Saoudite. Il a en revanche fait savoir qu'il ne traiterait plus qu'avec le roi Salman et non avec son fils, interlocuteur privilégié de Donald Trump. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
La présidence Biden qui a ordonné hier ses premières frappes au Moyen-Orient, l'opération a visé des milices pro-Iran en Syrie et a fait une vingtaine de morts. Washington a voulu ainsi envoyer un ferme avertissement à Téhéran après plusieurs attaques menées contre des intérêts américains en Irak. L'Irak, justement, où le mouvement de contestation reprend de la vigueur à Nasiriyah, dans le sud du pays. Depuis quelques jours, des habitants bravent les mesures de restriction anti-Covid pour dénoncer la déliquescence des services publics et exiger la démission du gouverneur de la province. Des heurts avec les forces de police ont fait au moins 6 morts depuis le début de la semaine. Le pays se prépare à la venue sur son sol du pape François vendredi prochain. Alors que les préparatifs matériels vont bon train, le cardinal Sacco propose une préparation spirituelle plus intense aux chrétiens irakiens. Dans un court texte, le patriarche chaldéen leur demande de prier l'Esprit Saint, d'habiter les gestes et les paroles du souverain pontife et de toucher les cœurs de ceux qui vont le rencontrer. Que Dieu libère le Moyen-Orient de la haine et de la violence, écrit encore le cardinal Sacco. C'est une affaire qui fait grand bruit au Royaume-Uni. La Cour suprême refuse le retour d'une jeune femme ayant quitté le pays il y a quelques années pour rejoindre l'État islamique en Syrie. Déchue de sa nationalité britannique, elle réclame le droit de venir contester cette décision. Mais la justice estime qu'elle représente un risque sécuritaire trop grand. À Londres, Jean Jaffray.
Shamima Begum avait été filmée avec 2 autres collégiennes franchissant la frontière turque pour entrer en Syrie il y a 6 ans. La police, au courant de ses contacts en ligne avec des islamistes, n'avait pas averti les parents. Aussitôt arrivées, les jeunes filles avaient été mariées. Shamima Begum a eu 3 enfants, tous morts. Bien que née au Royaume-Uni, le ministère de l'Intérieur l'a déchue de la nationalité britannique au motif que sa mère est originaire du Bangladesh où elle n'est jamais allée. Or, en droit international, une personne ne peut être rendue apatride. Selon les services de renseignement, Shamima Begum pose un grave risque sécuritaire si elle était autorisée à revenir. Sur 900 Britanniques partis en Syrie, 40% seraient rentrés après la défaite de l'État islamique. Dans la plupart des cas, la police s'est contentée d'une visite à leur domicile. Selon l'organisation Liberty, le gouvernement se sert de l'affaire Shamima Begum, violemment attaquée dans la presse populaire, pour détourner l'attention de l'échec de sa stratégie de lutte contre le terrorisme. Le Royaume-Uni, à l'instar d'autres pays européens, refuse de prendre ses responsabilités à l'égard d'enfants et de leurs mères qui vivent dans des conditions déplorables, dans des camps contrôlés par les Kurdes. Cette impasse juridique peut durer tant que Shamima Begum ne pourra pas venir elle-même au Royaume-Uni contester l'annulation de sa citoyenneté. Londres, Jean Jaffré, Radio Vatican.
La colère des Nigérians après l'enlèvement de plusieurs centaines de jeunes adolescentes dans un internat de l'ouest du pays, le troisième depuis le mois de décembre. Le président Buhari affirme qu'il ne cédera pas au chantage des bandits qui attendent le paiement de rançon. Une opération de sauvetage est en cours pour retrouver les jeunes filles. C'est l'une des pires attaques commises par l'armée camerounaise contre les populations civiles dans les régions anglophones du pays, secouées par des violences depuis 4 ans désormais. L'ONG de défense des droits de l'homme HRW publie un rapport accablant 1 an après l'attaque dans le village d'Ebam, dans l'ouest anglophone donc, car sur place, de nombreuses victimes se terrent dans le silence et dans la honte. Hilaria Allegrozzi est chercheuse pour l'ONG au Cameroun, on l'écoute.
Ce sont 20 femmes âgées de 23 à 42 ans, résidentes du village de Ebam, qui ont déclaré avoir été violées par des soldats de l'armée camerounaise pendant cette attaque. Il faut dire que leurs témoignages étaient accablants, glaçants, et que nous, on a pu les corroborer aussi à travers des informations qu'on a récoltées d'un médecin qui les a examinées et soignées. Cela est la première fois que nous documentons une attaque et des viols massifs pendant une opération militaire. Parmi les victimes, il y a aussi des hommes. 35 hommes ont été arrêtés. L'armée est rentrée maison par maison, a fait sortir les hommes et les a amenés ensuite, 35 d'entre eux, dans une base militaire pas loin du village d'Ebam où ces personnes ont été frappées, passées à tabac.
Des propos recueillis par Marie Noriot. En Birmanie, la population a accueilli avec beaucoup d'émotion le discours de l'ambassadeur du pays aux Nations Unies hier soir et de manière totalement inattendue. Celui-ci a pris ses distances avec la junte et demandé solennellement à la communauté internationale de prendre des sanctions sévères contre les militaires au pouvoir. Et ce matin, à Rangoon, les manifestations d'ordinaire pacifiques ont pris une toute autre tournure. Juliette Verlin y était.
Alors que les manifestants se préparaient à une nouvelle journée de contestation, la police les attendait dans les rues dès 9h ce matin. À Ledan, dans le nord de la ville, les premiers groupes de manifestants ont été dispersés au gaz lacrymogène et dans le quartier de Minigon, la police est en ligne et barre l'accès aux grands axes. Dans toutes les petites rues avoisinantes, les habitants s'organisent, ils bloquent l'accès à la police avec leurs véhicules, des barrières de pneus ou des barricades en bambou, mais cela ne suffit pas à entraver la progression de la police. L'ambiance a changé à Rangoon depuis hier, lorsque les policiers ont commencé à charger les manifestants pacifiques avec des grenades assourdissantes un peu partout en ville. Il y a eu un grand nombre d'arrestations et on voit bien que la tension monte du côté des manifestants qui sont de plus en plus nombreux à porter des casques ou des boucliers faits à la main. On ne sait pas vraiment ce qui a décidé la police à commencer à réprimer la contestation à Rangoon après 2 semaines de manifestations pacifiques presque sans tension. La journée ne fait que commencer, mais on sait déjà qu'elle sera bien différente des journées de manifestations précédentes. Juliette Verlin, Rangoon, Radio Vatican.
L'Inde annonce la tenue prochaine d'élections législatives dans 5 États, le Bengale, le Tamil Nadu, le Kerala, Pondichéry et l'Assam. Plus de 220 millions d'électeurs se rendront ainsi aux urnes dès le 27 mars. L'enjeu est majeur, 4 de ces États sont en effet contrôlés par l'opposition au gouvernement Modi. Israël, rappelé à l'ordre par les Européens et les Nations Unies, qui lui demandent de cesser les démolitions dans la vallée du Jourdain. Celles-ci, ainsi que des confiscations de propriétés, visent des installations de communautés bédouines palestiniennes, notamment dans la localité de Oumsa al-Bakia, pour laquelle la communauté internationale réclame un accès humanitaire. Aujourd'hui, 27 février, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Grégoire de Narek, un des piliers de la spiritualité des églises d'Arménie, proclamé docteur de l'Église par le pape François en 2015. Une messe sera célébrée à 10h30 en la basilique Saint-Pierre par le cardinal Sandri, le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, suivie d'une prière écuménique devant la statue du moine mystique située dans les jardins du Vatican. Et si l'effort de carême était numérique? La pratique du jeûne, souvent associée à la nourriture, peut concerner aujourd'hui une autre activité, notre rapport aux écrans et la consommation d'Internet. Saturation d'informations, déconcentration, sursollicitation, les méfaits d'y consacrer un peu trop de temps sont importants et sont nombreux, tout comme les conséquences sur la vie spirituelle qui risquent une évacuation du cœur et du corps, bref, de toute la dimension incarnée qui passe par les sacrements, la prière, et la rencontre physique aussi. Se déconnecter donc durant 40 jours pour se recentrer et réajuster son mode d'être et sa relation à Dieu, c'est ce que conseille le frère Jean-Alexandre Carme à Paris. Il met en garde aussi contre les illusions de puissance d'une société essentiellement basée sur l'image virtuelle. On l'écoute.
La pédagogie du carême propose le temps du jeûne, souvent lié à la nourriture. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres façons de se nourrir qui nous occupent un peu trop dans notre quotidien, qui est le rapport aux écrans et puis à la connexion à Internet. Donc le temps du jeûne, c'est un temps important, non pas pour diaboliser les écrans et Internet, encore une fois, du même qu'on ne diabolise pas la nourriture pendant le carême. Donc il ne s'agit pas de diaboliser les écrans, mais simplement de prendre de la distance par rapport à des choses qui en elles-mêmes peuvent être bonnes, mais qui parfois saturent un peu trop notre quotidien et nous poussent à avoir des rapports avec eux qui sont idolâtriques ou qui ne sont pas tout à fait à leur place dans notre vie, qui prennent trop de place. Il s'agit de nous réajuster dans notre relation avec les écrans et les nouvelles technologies pour mettre Dieu au centre.
Quels seraient les bienfaits spirituels et les valeurs cultivées par ce jeûne?
La valeur du sens de l'intériorité. Les écrans, par la lumière qu'ils diffusent, nous tirent hors de nous-mêmes, nous fascinent, voilà, nous scotchent. Et une des conséquences de ça, c'est qu'on sort de nous-mêmes au mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on ne vit plus à partir de notre cœur, au sens biblique, de notre liberté, de notre conscience, mais on vit dans un rapport très extérieur à nous-mêmes, et au fond, on n'est plus nous-mêmes. Le jeûne numérique nous aide à recentrer un peu notre vie sur notre intérieur, et la foi chrétienne nous dit que notre intérieur n'est pas vide, mais que notre humanité est habitée d'une présence, la présence de Dieu, et qui fait que nous ne sommes pas seuls, parce que souvent, en fait, on cherche à fuir.
Est-ce que l'on pourrait comparer ces 40 jours du Christ qui lutte dans le désert avec nous, notre attitude luttant contre les illusions numériques durant ce carême?
Ce qui me semble intéressant dans cette analogie, c'est que on voit bien les tentations de Jésus au désert dans l'évangile de Matthieu ou de Luc. L'adversaire, le démon, se sert beaucoup à la fois de la puissance et de l'image. La puissance, eh bien, elle transforme ces pierres en pain. Et en soi, le Fils de l'homme pourrait le faire. On peut avoir aussi cette illusion avec Internet que nous-mêmes, nous sommes très puissants. L'exemple du smartphone me semble assez éloquent à cette égard. Le carême et le jeûne des écrans nous aident à revenir à la réalité au-delà de nos rêves de puissance. Et l'autre point qui me semble intéressant aussi, c'est le rapport aux images. Les écrans fonctionnent fondamentalement sur les images, donc activent notre imagination pour le meilleur mais aussi pour le pire et nous font vivre aussi dans un monde d'images qui peut être là aussi déconnecté de la réalité. Et on voit bien Jésus au désert est attaqué par l'adversaire sur l'image qu'il peut avoir de son père, de Dieu ou l'image de la puissance. Toutes les images parfois gravées en nous par les consultations massives des écrans peuvent polluer aussi notre vie spirituelle.
Au-delà même du carême, il y a cette articulation difficile à trouver pour nous dans notre rapport aux écrans entre le virtuel et l'incarné dans le catholicisme particulièrement.
Ce qui est tout à fait juste, c'est que mon corps est impliqué de façon assez faible. Comment je prends soin de mon corps, notamment pendant le carême, qui me rappelle à des limites, qui me relie au sacrement. On le voit bien à travers cette pandémie cette année. Il y a des conséquences au niveau des sacrements. Bon, il y a quand même un décrochage, en tout cas en France, dans un certain nombre de lieux de la pratique dominicale. Certains pensent que la messe à la télé, c'est fantastique. Alors, pour les personnes qui ne peuvent pas y aller, évidemment, c'est fantastique. Mais rien ne remplace la rencontre sacramentelle, la rencontre fraternelle et la place du corps. Et je pense qu'un des gros enjeux dans notre rapport au numérique, c'est de faire attention à ce qu'on se désincarne pas davantage pour notre foi, qui est quand même une foi incarnée, une verbe de Dieu qui s'est fait chair. Il ne s'agit pas de dire le numérique c'est nul ou ça prend toute la place. Il s'agit d'articuler sa place en faisant attention à ce qu'on reste des êtres bien incarnés. Et c'est toujours la prière qui réajuste les choses. Sans la prière, en fait, on peut s'agiter dans beaucoup de sens, avoir l'impression de sauver le monde, mais devant Dieu, au fond, on ne fait pas grand-chose. Alors que celui qui prie, il découvre une autre qualité de vie, une autre qualité d'être, de relation avec les autres. Il fait peut-être moins, mais au fond, il change plus le monde parce qu'il se change lui-même.
Voilà, interrogé par Delphine Allaire, le frère Carme Jean-Alexandre sur les vertus du jeûne numérique dans ce carême, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre écoute fidèle. Je vous retrouve à 13h pour une nouvelle édition en langue française. Excellente matinée à toutes et à tous.